France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
C'est une hormone qui fait nos beaux jours et ceux de la recherche fondamentale. L'ocytocine, souvent considérée comme l'hormone de l'amour, deviendra-t-elle un jour un médicament pour des pathologies émotionnelles et psychiques ? L'ocytocine est bien plus qu'une histoire d'amour. Omniprésente chez toutes les espèces animales étudiées, elle est essentielle dans l'attachement affectif et le contrôle des émotions. Elle calme la souffrance et l'anxiété, module l'altruisme, l'empathie, la confiance ou encore les mécanismes amoureux et sexuels. Les chercheurs et cliniciens tentent donc de développer un mime efficace pour de nombreuses applications thérapeutiques, du traitement de la douleur au sévrage à l'alcool, en passant par les troubles du spectre autistique. Ocytocine, un amour d'hormones. Marcel Hibert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de chimie organique et de chimie thérapeutique à la faculté de pharmacie de Strasbourg et l'auteur de l'ouvrage « Ocytocine, mon amour » aux éditions Humaine Science en 2021. Alexandre Charlet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche CNRS à l'Institut des neurosciences cellulaires et intégratives de Strasbourg et vous êtes responsable de l'équipe contrôle peptidergique des émotions. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture et merci à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure en podcast sur l'appli Radio France. Je vous invite à nous rejoindre également sur la plateforme Blue Sky. Le départ collectif de X, ex-Twitter, se poursuit. Retrouvez-nous donc sur notre compte @sciencesqfd. Tous les jours, on y publie toutes nos sources et toutes nos ressources. Alors que sait-on du rôle de l'ocytocine dans nos émotions? Que connaît-on des circuits neuronaux impliqués dans sa production? Et quels sont les principaux freins à son utilisation thérapeutique? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais d'abord, quel est le large éventail d'actions physiologiques et sociales de l'ocytocine? La question est posée dans notre archet du jour.
2 ans déjà que l'expérience a démarré. Ce jour-là, c'est Renaud Simon, un autiste au quotient intellectuel élevé, qui se prête au jeu.
Peut-être qu'en étant sous l'emprise de l'ocytocine, j'ai pu être plus concentré sur les images, plus concentré sur l'expérience.
C'est un écran tactile.
L'ocytocine pour guérir les troubles autistiques. Voici une toute nouvelle piste de recherche. Car on connaît depuis plus d'un siècle l'existence de cette hormone sécrétée par le cerveau. Mais on lui attribuait jusqu'à présent que 2 rôles essentiels, déclencher l'accouchement, favoriser la montée de lait. On découvre aujourd'hui qu'on libère de l'ocytocine lorsque l'on fait l'amour, que l'on échange des baisers, lors d'un massage ou même en dégustant un bon mets. Cette molécule est impliquée dans des fonctions aussi nombreuses que variées et qui toutes permettent la survie de l'espèce. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour, c'est l'hormone du lien social.
Voilà, le 20h de France 2, en 2010, on entendait une molécule impliquée dans des fonctions qui permettent la survie de l'espèce. Marcel Hibert, pourrait-on vivre sans ocytocine?
Je crains que non, parce qu'il y a une observation, c'est que l'ocytocine est présente dans pratiquement toutes les espèces animales à reproduction sexuée. Donc il semble que l'évolution ait attaché une importance particulière à cette hormone. Donc depuis l'hydre, le ver de terre, les insectes, etc., eh bien, cette hormone a traversé les âges. Et j'ai l'impression qu'elle est absolument nécessaire à la survie de l'espèce.
Votre réaction, vous aussi, Alexandre Charlet, à l'écoute de cette archive?
Une archive tout à fait intéressante qui nous montre bien que ces recherches ne sont pas nouvelles, qu'on va étudier l'ocytocine et on cherche à l'utiliser en clinique. Ici, c'était sur un trouble de spectre autistique. Maintenant, on connaît ces fonctions qui vont être beaucoup plus larges, ce que vous avez souligné aussi. C'est des études qu'on poursuit encore et on va vraiment chercher à essayer d'appliquer ça, en tout cas mieux connaître le système pour traiter des pathologies diverses, allant des troubles de l'anxiété, troubles de la dépression, ou pourquoi pas des douleurs chroniques par exemple.
Et on va voir évidemment dans le détail comment sont menées ces recherches en recherche fondamentale et puis aussi côté clinique. Mais d'abord, une molécule qu'on connaît depuis 1906, étymologiquement parlant, ocytocine, ça vient du grec oxus, rapide, tokos, accouchement. Pourquoi un tel nom, Marcel Hibert?
Parce que depuis justement le début du 19e siècle, on s'est rendu compte que dans certains extraits d'hypophyse notamment, il y avait des substances qui accéléraient les accouchements. Et la structure était caractérisée dans les années 50. Ça a valu le prix Nobel d'ailleurs au chimiste qui a réalisé ça. Et il lui a donné ce nom d'ocytocine justement par référence à accouchement rapide. Donc en français, c'est OCY, les Américains ont mis un X à la place du C, parce que je pense qu'ils attachent moins d'importance à l'étymologie grecque. Mais voilà, donc c'est ocytocine avec un C en français et en Europe, et oxytocine avec un X dans les pays anglo-saxons.
passe prix Nobel qui décrit donc l'ocytocine comme une hormone formée de 9 acides aminés, c'est donc un neuropeptide. Alexandre Charlet, petite cartographie du système ocytocinergique, où et comment l'ocytocine est-elle synthétisée ?
Elle est synthétisée à beaucoup d'endroits. Le site majoritaire de synthèse de l'ocytocine va être dans l'hypothalamus, donc c'est dans le cerveau. On a plusieurs noyaux là, qui comportent des neurones qui vont pouvoir synthétiser ce peptide. Et à partir de là, on va avoir une libération de l'ocytocine dans le sang pour la majorité de ses effets périphériques et une libération dans le système nerveux central pour la régulation de toutes les fonctions physiologiques qui nécessitent de moduler l'action cérébrale.
Marcel Hubert. Pour continuer cette cartographie.
Oui, rien à ajouter, c'est Alexandre le spécialiste, moi je suis plutôt le chimiste de la bande. Donc voilà, vous avez l'info.
Les neurones ocytocinergiques, il y en a deux types, hein, si je ne me trompe pas, Alexandre Charlet.
On décrit principalement deux types, on est en train maintenant d'étendre un peu cet éventail. Et ces deux types se décrivent très facilement, se différencient très facilement. On a des neurones magnocellulaires qui vont être de gros neurones, qui eux sécrètent l'ocytocine dans le sang. Et on a des neurones parvocellulaires, qui sont des neurones beaucoup plus petits, beaucoup plus rares, qui vont avoir pour fonction de contrôler l'activité des neurones magnocellulaires, mais aussi de libérer l'ocytocine dans d'autres régions cérébrales, donc d'amener l'ocytocine par des projections directes là-bas.
C'est ça, c'est qu'on parle d'une hormone qui est à la fois périphérique, mais aussi intracérébrale.
Oui, puisque par son action sanguine, va agir donc dans le système périphérique. Dans le reportage, il y avait mention de son rôle dans l'accouchement en clinique. C'est notamment quelque chose qu'on peut faire, ça existe toujours. On injecte l'ocytocine et puis là, ça va agir sur le muscle utérin pour une contraction. Donc c'est une action qui est purement périphérique. Et on va avoir d'autres actions qui vont être purement centrales, typiquement ses fonctions sur le contrôle de l'anxiété par exemple, ou de l'attachement. Ça va se faire dans le cerveau et donc pas du tout en périphérie.
Marcel Hubert, qu'est-ce qui inhibe ou au contraire, qu'est-ce qui stimule la sécrétion d'ocytocine ?
Ah, la question est vaste, on finit pas de trouver de nouveaux stimuli, en gros, qui viennent sortir ça, donc la liste est infinie. Donc naturellement, comme le disait Alexandre au moment de l'accouchement, donc les femmes libèrent cette ocytocine dans leur cerveau, ça va irriguer tous les tissus, et à ce moment-là, uniquement au moment de l'accouchement, elles vont trouver en face, sur le muscle utérus, les récepteurs sur lesquels l'hormone va agir et permettre l'accouchement, entre autres. Mais sans ça, voilà, il y a énormément d'autres fonctions, la liste en est longue, vous l'aviez donné en début d'interview. Donc on va la trouver un petit peu partout en fait.
On la trouve aussi en effet dès les premiers instants de la vie du nouveau-né. Hein, l'influence de l'ocytocine est déjà présente dès la naissance, Marcel Hubert.
Ce qui est sorti depuis une vingtaine d'années, c'est qu'effectivement l'hormone n'est pas là que pour provoquer mécaniquement l'accouchement, mais il semble qu'elle protège le nouveau-né de la douleur déjà. Passer dans un utérus va aussi être douloureux, pas seulement pour la mère, mais aussi pour le petit. Et donc ça va le protéger de cette douleur. Ça va également le protéger du manque d'oxygène. Si par exemple à un moment donné il reste coincé dans cet utérus trop longtemps, eh bien l'hypoxie, le manque d'oxygène pourrait être assez dommageable pour ses tissus, notamment pour le cerveau. L'ocytocine a l'air d'être là pour le protéger de ce manque d'oxygène. Et puis derrière, une fois que l'accouchement est fait, c'est assez extraordinaire parce qu'elle va être cruciale pour développer le sentiment parental, donc l'attachement de la mère et du père pour leur enfant, et puis également faciliter les possibilités de l'enfant à comprendre les stimuli qu'il a autour de lui. Ça va également le protéger de l'inflammation, l'aider à construire son microbiote. Donc vous voyez, la liste est infinie.
Alexandre Charlet, en effet, l'ocytocine est essentielle à la formation des liens d'attachement. Et on l'a dit, elle est omniprésente dans la nature.
Elle est complètement omniprésente. Si je peux revenir sur ce qu'a dit Marcel, qui dressait un éventail quasi exhaustif du nombre de stimulations qui peut synthétiser, libérer l'ocytocine, ou en tout cas activer ses neurones. Il y a quelques années, on avait montré que l'une des manières les plus efficaces de stimuler l'activité de ces neurones, donc de libérer l'ocytocine, c'était un toucher tactile. Ça, c'était très important, et notamment dans le cadre de la relation mère-enfant. C'est que maintenant, on fait de plus en plus du peau à peau avec le nouveau-né. Et on pense notamment que cette interaction peau à peau va stimuler des afférences périphériques qui vont alors induire une libération d'ocytocine et donc encourager l'attachement mère-enfant. Ça, c'est extrêmement important aussi.
C'est en effet une étude parue dans la revue Nature Neurosciences en 2020 qui montre en effet que c'est le contact tactile qui favorise en effet cette sécrétion d'ocytocine bien plus que n'importe quel autre stimulus olfactif.
Bien plus, je sais pas. J'aime bien prendre des pincettes. En tout cas, ça le stimule. Et ce qui était intéressant aussi là-dessus, c'était de constater que non seulement ce contact tactile va libérer de l'ocytocine, ça c'est une partie de l'étude, mais aussi que cette ocytocine libérée va induire une motivation à avoir une interaction sociale et donc à chercher toujours un peu plus ce contact tactile. Donc quelque part, si on brise ce cercle, si on a moins de contact tactile, on va avoir moins d'interaction sociale et ça peut finalement être délétère.
Marcel Hubert.
Alors on peut tout de suite compléter, donc il y a effectivement le toucher, mais il y a bien d'autres choses. Il va y avoir le regard, qui va être aussi un vecteur d'empathie. Derrière ça, il a été démontré qu'effectivement, pour le toucher, le baiser, faire l'amour, danser ensemble, faire de la musique, de l'improvisation ensemble, faire de la méditation, tout ça vient provoquer des décharges d'oxytocine. Avoir un rapport affectif avec son animal domestique, avec le chien est capable, par son regard, de faire monter l'oxytocine en vous et d'induire de l'empathie et d'obtenir de vous ce qu'il veut. Voilà, donc il y a énormément de choses qui sont capables de venir stimuler cette production d'oxytocine. Et chaque fois, l'idée, c'est d'établir du lien entre individus, du lien entre parents et enfants, entre adultes, du lien entre l'animal domestique et puis son compagnon humain, si on peut le dire dans ce sens-là. Donc voilà, l'oxytocine est un peu partout, donc il suffit de se sourire, de se regarder gentiment, de passer des bons moments ensemble, et généralement l'oxytocine monte, l'empathie monte, la sympathie monte, et ça fait du bien à tout le monde.
Cette hormone du lien, on parle aussi de l'hormone de la monogamie et de l'attachement, hein, puisque il y a cette étude géniale parue en 2011 dans Frontiers in Neuroendocrinology sur les campagnols des prairies et les campagnols sylvestres, deux espèces monogames, et les campagnols des champs et des montagnes qui, eux, sont polygames, et les chercheurs ont manipulé les gènes qui codent les récepteurs de l'ocytocine. Marcel Hubert.
Résultat. Alors déjà, tout raccourci est abusif, c'est-à-dire hormone de l'amour, c'est faux, hormone de l'attachement, c'est limitant, hormone de la monogamie, c'est faux. Donc il faut absolument pas réduire une fonction complexe à une hormone, c'est toujours beaucoup plus complexe. Hein. Donc derrière l'amour, il y aura des gènes, il y aura l'histoire, il y aura la culture, mais il y aura aussi un petit peu de l'ocytocine, elle va être là pour apporter sa contribution.
Et tout un tas d'autres hormones
voilà.
Également.
Par rapport donc à ce dont vous parlez, c'est-à-dire monogamie, polygamie, effectivement c'est le point de départ des recherches sur l'attachement, ou l'amour si on veut. C'est cette observation par Lowell Lee Gates, qui était un zoologue américain, qui a passé sa vie à observer des campagnols. Et s'est rendu compte que dans la prairie aux États-Unis, ils arrivaient toujours par couple, mâle-femelle, et c'était toujours le même couple. Pendant les 2-3 ans de l'observation, c'est ce couple qui venait grignoter son maïs. Par contre, donc ceux-là étaient monogames. Et puis, lorsqu'il y avait des petits, le père et la mère s'occupaient des petits. Par contre, la même espèce animale, dans les montagnes rocheuses, en milieu beaucoup plus hostile, eh bien, c'est l'inverse. Il y avait soit le père, enfin, soit un mâle, soit une femelle qui venait vers son maïs. Et ils étaient donc clairement polygames. Et lorsqu'il y avait des petits, la mère s'en occupait et le père disparaissait. Donc c'était le point de départ. On s'est rendu compte que dans une même espèce animale, en fait, il y avait des comportements d'attachement relationnel qui étaient radicalement différents. Ces animaux ont été amenés en laboratoire. On a essayé de comprendre quelle était la différence. Ça, c'est plutôt le travail de Thomas Insel et Larry Young un peu plus tard. Et il a été démontré que l'oxytocine jouait un rôle clé dans ces comportements d'attachement, de monogamie, polygamie.
C'est qu'on a vu que le blocage des récepteurs de l'ocytocine chez les campagnols des prairies induit des comportements volages.
Oui, alors ce qui est presque encore plus fascinant, c'est que l'injection d'oxytocine dans le cerveau des polygames, dans la montagne, les rend monogames. Donc on peut à volonté essayer de rendre monogame son conjoint, peut-être. Enfin, n'essayez pas de lui injecter quelque chose dans le cerveau, ça marchera peut-être pas bien. Mais en tout cas, il semblait y avoir un impact de cette hormone. Et l'expérience encore la plus frappante pour nous, peut-être, c'est de la thérapie génique. C'est-à-dire qu'on a réussi à transférer le gène des monogames campagnols à des souris polygames de laboratoire. Ces souris sont devenues monogames. Donc même simplement avec un gène, pas simplement avec l'hormone, mais en transférant le gène, en l'incluant dans le génome d'une espèce polygame, on a complètement modifié son comportement.
Mais ça signifierait presque qu'il existe des prédispositions génétiques à la fidélité, Marcel Hubert ?
Alors malheureusement oui, et malheureusement on l'a trouvé également chez l'homme, donc il n'a pas été facile de trouver des groupes d'hommes réellement fidèles et de femmes réellement fidèles ou infidèles pour mener les expériences, mais les Suédois ont réussi à faire ça. Ils ont trouvé des grandes populations de jumeaux notamment, ce qui facilite les études et les comparaisons génétiques, et il a été démontré que la vasopressine chez les hommes et l'ocytocine chez la femme, eh bien, il y avait des variants du récepteur qui prédisposaient à avoir des relations stables en couple, et les interactions sociales plus ou moins poussées.
La vasopressine, pour le signaler, c'est une sorte d'hormone cousine de l'ocytocine.
Oui, c'est une cousine germaine. Elle a probablement existé avant l'ocytocine et probablement l'ocytocine a dû dériver un jour, probablement, de la vasopressine. Mais elles ont des rôles similaires, parfois croisés, chez mâles et femelles. Donc souvent, on met l'accent sur l'ocytocine parce qu'on a pu faire beaucoup d'études chez l'homme avec l'ocytocine, ce qui n'a pas été possible avec la vasopressine. Mais si un jour on fouille, on trouvera probablement des effets miroirs entre vasopressine et ocytocine.
Alexandre Charlet.
Il a tout à fait raison, c'est exactement ça. On va dire beaucoup de ça, hein, ce genre de choses. Hein, il a raison. La vasopressine, sans doute la première à être apparue, et ses premières fonctions, c'était le contrôle de l'homéostasie ionique, avec le contrôle de la salinité, quelque part. Et finalement, ça, c'est une fonction qui est indispensable à la survie de n'importe quel organisme. Et en évoluant, on a eu d'autres fonctions qui sont apparues, qui, là aussi, tournent autour de la survie. Alors, bien sûr, avec l'ocytocine, on a fait des études chez l'homme, on en a pas fait ou très peu fait pour la vasopressine, mais on a aussi le penchant et le pendant de ces études en recherche fondamentale, puisque depuis maintenant une quinzaine d'années, on a des outils qui sont très développés pour l'étude du système ocytocinergique. On n'a pas encore, on commence à peine à les avoir pour le système vasopressinergique. Donc ça explique aussi qu'on connaisse beaucoup mieux les fonctions de l'ocytocine que les fonctions en soi de la vasopressine.
Alors comment l'ocytocine exerce-t-elle un effet analgésique, anxiolytique et prosocial? Comment et pourquoi ces hormones façonnent-elles l'attachement? Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD, Natacha Trioux.
En direct sur France Culture avec Marcel Hibert et Alexandre Charlet, nous parlons de l'ocytocine, cette hormone de l'amour, mais pas seulement. Nous venons de voir que ce neuropeptide de 9 acides aminés agit comme une hormone et un neuromodulateur. On vient d'évoquer le fonctionnement du système ocytocinergique et de ses effets très divers. Alors c'est dans l'attachement affectif et le contrôle des émotions que l'ocytocine joue un rôle central. On voit que aussi Alexandre Charlet, hein, que l'ocytocine joue un rôle en effet aussi sur les circuits de la récompense.
Oui, alors pendant toute la première partie de l'émission, on a beaucoup insisté sur les fonctions, sur l'amour de l'ocytocine. Ça, c'est vraiment le rayon de Marcel, c'est un romantique, c'est un grand romantique. Et puis finalement, à un moment donné, on commence à être un romantique un peu désabusé. Puis on se rend compte qu'avec l'amour, on a beaucoup d'anxiété, de douleur. Tout ça, il faut aussi pouvoir le gérer. Et par chance, l'ocytocine, là aussi, peut agir. Donc elle va nous aider pour tout ça. Et toutes ces fonctions de contrôle d'émotions, parce qu'on a vraiment un large éventail d'émotions qui sont contrôlées par l'ocytocine, va se faire via des réseaux neuronaux. C'est-à-dire le neurone ocytocinergique qui va envoyer de l'ocytocine dans une région cible du cerveau, la libérer à cet endroit-là, moduler le neurone postsynaptique, le neurone qui suit. Et là, on va avoir régulation de notre anxiété. On a des régulations de la dépression, de certains types de douleurs. On a aussi donc les régulations, donc même de l'addiction ou de la prise d'alcool.
Ouais, Alexandre Charlet, vous avez étudié l'anxiété et la peur et vous avez mis en évidence les actions anxiolytiques de l'ocytocine.
On a étudié ça beaucoup. Alors j'ai commencé à étudier ça en Suisse, dans le laboratoire de Rumstoup. Ça, c'était déjà en 2010. Et là, on a montré que sa libération dans l'amygdale était capable d'activer, de moduler le réseau neuronal de cette structure, qui est une structure clé pour établir une valence émotionnelle à un stimulus, c'est-à-dire dire si quelque chose est finalement positif ou négatif pour nous. Et donc l'ocytocine ici va moduler ce réseau cérébral, et c'est via cette modulation qu'elle va induire son action anxiolytique. Le même laboratoire, par le passé, avait par exemple montré que la vasopressine avait un effet exactement opposé. C'est-à-dire que la vasopressine, elle, augmentait l'anxiété des animaux, en l'occurrence.
C'est ça, l'amygdale cérébrale, c'est l'organe de la perception de la peur.
Pour schématiser. Il faut quand même dire que maintenant, on essaie un peu de s'éloigner d'une structure, une fonction, tout comme on essaie de s'éloigner d'une molécule, une fonction, pour considérer beaucoup plus des aspects de réseau. Donc effectivement, de toute façon, l'amygdale, elle est au cœur de ce réseau, elle sera vraiment la responsable de l'attribution d'une valence. Elle agit jamais seule. Il y a des afférences qui viennent vers elle, donc des neurones, des régions qui communiquent avec elle, et elle-même communique avec d'autres régions. Et c'est ce réseau qui va être à la base de toute l'attribution émotionnelle de ces émotions.
Et la question scientifique que vous vous posez, Alexandre Charlet, c'est comment l'ocytocine module-t-elle l'activité des réseaux neuronaux pour induire une modulation des émotions?
Oui, effectivement, parce que on sait maintenant depuis de nombreuses années que l'ocytocine a ses fonctions. Ça fait à peu près plus de doute qu'on sait qu'elle a une fonction anxiolytique, etc. Ce qu'on ne sait pas du tout, c'est comment est-ce que l'ocytocine va pouvoir induire ces modifications. Donc on s'est penché sur ces questions depuis une dizaine d'années dans notre laboratoire. Et ce qui nous intéresse beaucoup, ce sont les interactions entre neurones et glies. Parce que dans le cerveau, on a beaucoup de neurones, ça à peu près tout le monde le sait. Mais on a aussi énormément de cellules gliales, une cellule gliale pour un neurone en moyenne à peu près, qui sont des cellules qui entourent ces neurones et qui vont être à la fois des supports, des glues, d'où leur nom, mais aussi vont aider les neurones, vont moduler l'activité synaptique, l'activité du neurone en lui-même. Donc on regarde. Et on s'est rendu compte il y a maintenant 4 ans que les astrocytes, qui sont des petites cellules en forme d'étoile, vont avoir un rôle primordial puisque l'ocytocine va pouvoir agir sur cet astrocyte qui va l'activer, entre guillemets. Et c'est cet astrocyte-là et cette activation qui, par la sécrétion d'autres facteurs, d'autres transmetteurs, vont réguler le réseau neuronal. L'avantage énorme là-dedans, c'est que le réseau astrocytaire forme un syncytium, comme le syncytium cardiaque, c'est-à-dire que les cellules sont connectées entre elles. Et donc, on va avoir une diffusion du message ocytocine. Vous allez avoir une molécule d'ocytocine qui va être libérée, pour schématiser, qui va activer un astrocyte. Et le signal va se diffuser à la fois spatialement, pour moduler vraiment l'ensemble du réseau neuronal, mais aussi dans le temps, pour pouvoir induire une modulation beaucoup plus longue que la survie de l'ocytocine elle-même.
Oui, par rapport justement aux effets anxiolytiques de l'ocytocine, Marcel Hibert, on sait qu'il y a une forte implication de cette hormone dans les trois grandes formes d'anxiété, hein, l'anxiété généralisée, post-traumatique et sociale.
Oui, dans les quelques études qui ont été effectuées chez l'homme, en leur faisant sniffer simplement l'ocytocine, c'est la seule manière d'en envoyer un petit peu dans le cerveau chez l'homme. On s'est rendu compte, alors il y a pas mal d'études qui sont parfois en contradiction, mais en gros, l'ocytocine a l'air de marcher pas mal sur tout ce qui est problème d'anxiété sociale. Donc dès qu'il y a de l'interaction sociale en jeu, il y a une certaine efficacité. D'autres formes d'anxiété, comme l'anxiété générale ou l'anxiété post-traumatique, là, l'efficacité est beaucoup moins évidente. Donc tout ce qui est anxiété sociale, alors d'ailleurs ça peut couvrir des choses extrêmement larges, hein, comme l'anorexie, certaines formes de boulimie, et toutes sortes d'autres interactions, des bégaiements par exemple, eh bien l'ocytocine a l'air d'avoir là un rôle potentiellement intéressant. À valider bien sûr, lorsque on aura des outils un peu plus propres.
Oui, c'est-à-dire que les résultats pour le moment ne sont pas tout à fait probants, Marcel Hibert. Et puis ça passe par application, par spray nasal, c'est ça?
Oui, donc la plupart des études... Alors heureusement, l'ocytocine existe depuis les années 1950 sous forme de spray nasal. C'était utilisé dans un certain nombre de pays pour faciliter l'éjection du lait. Ce qui fait que les cliniciens, les pharmacologues, les neuropsychologues ont pu utiliser ce médicament qui existe, hein, qui s'appelle le syntocinon, pour faire des études directement chez l'homme. Donc il y a un certain nombre de choses qui ont pu être démontrées comme ça. Le problème, c'est que l'ocytocine par spray nasal, on contrôle très très mal la dose qui est administrée. En plus, il y a 1, 2, 3%, on ne sait pas exactement, qui passe du système olfactif au cerveau, donc on ne maîtrise pas la dose. Et puis enfin, l'ocytocine est une molécule très fragile dans le corps. Elle est détruite en quelques minutes, 3, 4, 5 minutes dans le foie, peut-être un peu plus dans le cerveau. Donc il est toujours difficile de tirer des conclusions de ce genre d'études. Et c'est pour ça qu'il est important de développer des molécules plus stables qui permettent d'aller étudier ces fonctions.
On reviendra dans quelques instants en effet sur les limites thérapeutiques que l'on croise quand on cherche à travailler avec cette molécule. Mais pour prolonger Alexandre Charlet, hein, sur les différents effets physiologiques de l'ocytocine, par rapport à la modulation de la douleur, hein, de nombreuses études ont mis en évidence que l'ocytocine atténue la sensation douloureuse, mais quels sont les circuits neuronaux impliqués? Comment ça fonctionne cette action analgésique?
On a plusieurs circuits neuronaux qui ont été décrits. On sait par exemple qu'il y a de nombreux récepteurs l'ocytocine qui sont dans la corne dorsale de la moelle épinière, donc au niveau de votre dos. C'est au niveau de cette corne dorsale que va être traitée l'information nociceptive. Donc si on peut ici bloquer le message nociceptif, donc potentiellement dangereux, qui lui va donner naissance à une douleur, on va bloquer la douleur. C'est-à-dire que l'un de ces sites d'action va être directement la moelle épinière. Un autre site d'action, ça va être la périphérie, sur les fibres nerveuses elles-mêmes, les fibres sensorielles, puisque là aussi, il y a notamment un groupe mexicain avec Miguel Candeslara qui a montré la présence de récepteurs sur ces fibres périphériques. Donc là encore, si on modifie l'activité de ces fibres périphériques, et donc on empêche le signal d'arriver à la moelle épinière, on va diminuer la douleur perçue. Ça sont les deux premiers modes d'action qui ont été décrits. Et en se penchant un peu plus sur ces problématiques, ce qu'on a pu démontrer, c'est que les neurones parvocellulaires, donc justement ces petits neurones, semblent être au cœur de la régulation de la douleur par l'ocytocine, puisqu'on va avoir l'activation de certains de ces neurones. Quand je dis certains, c'est vraiment une très petite population chez le rongeur, chez le rat. Là, on a fait l'étude, on avait 30 neurones seulement. Donc c'est vraiment très peu. Et l'activité de ces 30 neurones était suffisante pour réduire, pas complètement bloquer, mais réduire la sensation douloureuse. Et cette réduction de sensation douloureuse passe par la libération d'ocytocine à la fois dans le sang, pour agir notamment en périphérie, ce que je vous ai décrit avant, mais également dans le système nerveux central, sur les neurones magnocellulaires. On a ensuite continué cette étude, parce que forcément, il n'y avait pas que ceux-là qui étaient activés. On a trouvé une autre population de neurones parvocellulaires, c'est-à-dire complètement différenciée. On pourra revenir dessus, mais c'est une notion qui est importante de dire qu'il y a des neurones ocytocinergiques au sens large, mais en fait, ils forment des petites populations bien définies qui ont des fonctions bien précises. C'est aussi comme ça qu'une molécule peut avoir plusieurs fonctions. Et donc, on a identifié une autre population de neurones parvocellulaires qui projette à une structure clé du contrôle de la douleur, qui s'appelle la substance grise périaducale. Et en libérant de l'ocytocine à cet endroit-là, elle va activer ce qu'on appelle des contrôles descendants. Et ces contrôles descendants sont en fait responsables de bloquer l'information nociceptive au niveau de la moelle épinière. Donc on va avoir ainsi plusieurs modes d'action qui sont complètement complémentaires, périphériques, moelle épinière et centrale, pour induire une analgésie.
Une trentaine de neurones pour réguler la douleur sur les quelques 100 milliards de neurones dans le cerveau d'un rat, c'est très peu comme population de neurones en effet.
C'est très peu. Alors, il n'y a pas que l'ocytocine qui régule la douleur. Encore une fois, quand on les manipulait, on ne bloquait pas complètement la douleur perçue, c'est-à-dire qu'on avait un effet d'une vingtaine ou une trentaine de pourcents de réduction. Ça reste majeur par rapport au nombre recruté. Mais là, encore une fois, ça peut s'expliquer par le fait que l'ocytocine va avoir des actions prolongées. Et pourquoi pas notamment sur les astrocytes, ce qu'on expliquait un peu avant. C'est-à-dire que si vous avez peu de molécules libérées, mais une amplification complète du signal et une diffusion de son effet sur l'entièreté d'un réseau, quel que soit le noyau ciblé, ben vous pouvez imaginer que finalement, peu de neurones peuvent avoir une action massive.
Alors, quelles sont les pistes thérapeutiques actuellement étudiées en clinique, mais non encore abouties? Pourquoi l'ocytocine ne peut-elle pas devenir un médicament, ni un filtre d'amour? Restez avec nous.
I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day, but I want you to be true, and I just wanna make love to you, love to you, ooh, love to you. All I want to do is wash your clothes. I don't want to keep you indoors. There is nothing for you to do but keep me making love to you, love to you, ooh, love to you. And I can tell by the way you walk that walk, I can hear by the way you talk that talk,
État James en direct sur France Culture, car nous parlons de l'hormone de l'amour, mais pas que, nous parlons de l'ocytocine, en compagnie de nos deux invités du jour, Marcel Hibert, professeur émérite de chimie organique et de chimie thérapeutique à la faculté de pharmacie de Strasbourg, et Alexandre Charlet, directeur de recherche CNRS à l'Institut des neurosciences cellulaires et intégratives de Strasbourg. On a vu que des variations des taux d'ocytocine ou de la structure des gènes de son récepteur pouvaient être associées à la douleur, l'anxiété, la dépression, aux troubles de l'interaction sociale, à la capacité à vivre en couple. L'ocytocine module l'empathie, la confiance, la générosité, la coopération, la communication sociale, entre autres. Tout ça, ça veut dire qu'il y a un grand nombre de maladies, de troubles sur lesquels l'ocytocine est étudiée, Marcel Hibert.
Oui, effectivement, est étudiée...
Pour laquelle l'ocytocine est envisagée.
Est envisagée. Donc en clinique, le potentiel d'utilisation de l'ocytocine a été étudié sur beaucoup de pathologies. Maintenant, en termes de développement de médicaments, il n'y a guère que deux ou trois pistes qui sont réellement suivies en ce moment.
Pour quel trouble ou pathologie l'ocytocine ou un agoniste pourrait être utilisé?
Alors celle qui nous a le plus intéressé, c'est les troubles du spectre autistique. Dans la mesure où il y a une observation très tôt chez l'animal, chez le rat, qui montrait que si on bloquait l'effet de l'oxytocine dès la naissance chez un jeune, un nouveau-né rat, eh bien, il ne développait aucune interaction sociale. Donc, il a été démontré que, par contre, si on lui redonnait l'oxytocine, l'interaction sociale redémarrait normalement. Donc, les chercheurs ont imaginé quelle pouvait être la solution parallèle chez l'être humain, et on a pensé aux troubles du spectre autistique. Et là, il y a eu tout de suite toute une série d'études qui ont été faites, grâce notamment à l'existence de ce spray nasal à base d'oxytocine, qui a été administré pour la première fois à des personnes souffrant d'autisme. Et à la stupéfaction générale, on s'est rendu compte que pour la première fois de leur vie, ils se mettaient à regarder dans les yeux, ce que les autistes essayent d'éviter en temps normal. Et mieux que ça encore, ils arrivaient à décrypter des émotions sur des visages, sur des regards, et à retrouver une forme d'interaction sociale plus classique, on va dire. On va pas utiliser le mot normal, on va dire moins atypique. Voilà, donc du coup, ça a validé un petit peu la piste comme quoi l'oxytocine ou des analogues de l'oxytocine pourraient être utiles pour aider certaines personnes souffrant de troubles de l'interaction sociale à retrouver une certaine capacité à interagir.
Alexandre Jarlet.
C'est
la douleur.
C'est alors les troubles du spectre autistique sont effectivement le débouché majeur, ou en tout cas là où on trouve le plus d'études, ça c'est sûr. J'ai notamment en tête une étude de Françoise Muscatelli, entre autres, qui était à Marseille, sur le syndrome de Prader-Willi, si je ne dis pas de bêtises, qui montrait quelque chose de tout à fait intéressant, c'est-à-dire que si elle administrait l'oxytocine à des enfants en bas âge, elle arrivait à réverser le symptôme, mais pas seulement au moment de l'application de l'oxytocine, mais sur le long terme aussi. C'est encore des études qui sont en cours. Ça, par exemple, c'est un potentiel qui est vraiment énorme, parce que c'est une pathologie qui est très handicapante. Alors, bien entendu, on aimerait que ce soit un peu plus utilisé ou un peu plus étudié pour la douleur. On a énormément de patients qui sont des douloureux chroniques, qu'on n'arrive pas du tout à soigner avec les batteries d'analgésiques classiques. On a fait plusieurs études là-dedans, où on a pu montrer que l'oxytocine, ou en tout cas l'activation de ces récepteurs, était capable de moduler les douleurs, qu'elles soient de type inflammatoire ou de type neuropathique, avec un avantage énorme par rapport à d'autres molécules, c'est qu'elles ne touchent pas à la sensibilité basale, donc à la nociception. C'est-à-dire qu'on va réduire la douleur sans toucher à votre sensation. Ça, c'est extrêmement important. Et on aura très peu d'effets secondaires, finalement, ou d'accoutumance, comme notamment avec la morphine.
On met fait un antidouleur, mais aussi un anxiolytique, comme on en a parlé en première partie d'émission, Marcel Hibert.
Oui, mais je suis pas au courant d'études aujourd'hui, de recherches. Parce que les résultats étaient un petit peu étonnants chez l'homme. Enfin, c'était pas très très net. Par contre, il y a un troisième axe qui est très suivi, c'est tout ce qui est addiction. Donc
addiction
sevrage. Sevrage à l'alcool, sevrage à différentes drogues. Donc là aussi, il y a des pistes. Et aujourd'hui, la molécule dont on parlera peut-être tout à l'heure est extrêmement active dans des modèles de douleur chez Alexandre notamment, et dans des modèles aussi de sevrage à l'alcool. Et en plus des modèles d'interaction sociale. Donc c'est vraiment les trois premières pistes, je dirais, actuellement, c'est autisme, douleur et sevrage aux drogues.
Et par rapport à l'autisme, justement, l'oxytocine qui pourrait être utilisée pour traiter les troubles du spectre autistique, le fonctionnement de cette hormone dans un contexte social est encore trop mal compris pour avoir une bonne efficacité thérapeutique, et c'est justement le sujet de notre reportage du jour. Avec vous, Loïc Dutoit, bonjour.
Bonjour Natacha.
Alors, selon une étude publiée dans Cell Reports Medicine en novembre dernier, l'oxytocine est produite en plus grande quantité dans notre cerveau quand on rencontre quelqu'un que l'on connaît déjà.
L'expérience a été menée sur deux groupes de souris. L'un était sain et l'autre avait reçu une mutation, la mutation MAGEL2, pour avoir les symptômes d'une pathologie génétique rare dont vous venez de parler, avec une forte prévalence d'autisme. En observant ce qui se passait dans le cerveau des souris, les chercheurs ont montré que l'ocytocine et la vasopressine, deux hormones qui sont très proches l'une de l'autre, jouent un rôle différent en fonction du niveau de familiarité de la personne avec qui on a une interaction sociale. C'est ce que m'a raconté Émilie Hervé André, qui est sage-femme, enseignant-chercheur et co-autrice de l'étude menée par Freddy Gento à l'Institut génomique fonctionnel de Montpellier.
Il y a toute une séquence de ces neuropeptides, vasopressine et ocytocine, qui est très importante lorsque l'on rencontre une personne. Le point clé de l'article, c'est qu'en fait, quand on va rencontrer une nouvelle personne, c'est plutôt la vasopressine qui va agir dans un premier temps. Ensuite, quand la personne va nous devenir familière, on sera réexposé plusieurs fois en fait à la même personne. En fait, c'est là où l'ocytocine va être synthétisée et où va y avoir une action. en fonction de la familiarité de l'individu, on ne va pas avoir la sécrétion de l'ocytocine et de la vasopressine en simultané. On va d'abord avoir plutôt la vasopressine qui va être sécrétée et ensuite l'ocytocine. Et en fait, cette sécrétion dans le cerveau va dépendre du contexte dans lequel on est.
Donc moi, quand je suis arrivé, il y a la vasopressine qui s'est activée. Quand je suis arrivé ici, par exemple, et que je vous ai rencontré. Mais si je vous revois demain, ce sera plus l'ocytocine. Est-ce que, trivialement, on pourrait le résumer comme ça?
On va dire que oui. En fait, l'ocytocine, elle est notamment mise en jeu dans les comportements sociaux qui vont être des comportements face à des personnes que l'on connaît déjà, que l'on apprécie. Vous voyez, typiquement, quand une mère va regarder son enfant, elle va avoir une décharge d'ocytocine en fait, au niveau du cerveau.
Donc là, on est dans les données de l'article scientifique que vous avez publié. On est face à un schéma où on voit des souris et j'ai l'impression que c'est des petites cages qui enferment les souris avec... On voit marqué au-dessus familiarisation, étranger, etc. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce schéma qui donc parle de l'expérience que vous avez menée?
On a pris des souris qui étaient soit mutées, soit des souris wild type.
Wild type, c'est-à-dire celles qui n'ont pas de maladie, c'est ça?
Oui, c'est ça. Et en fait, on les a fait rencontrer des souris plus jeunes parce qu'il n'y a pas d'agressivité en fait envers les mâles plus jeunes. Et ces souris-là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a mis dans des boîtes où elles pouvaient se renifler, se sentir, interagir. On a regardé les interactions de ces souris. Donc on a regardé la première fois où en fait finalement c'était une souris qu'elle ne connaissait pas. Et ensuite on réexposait la même souris avec la même souris dans la boîte, avec à chaque fois un intervalle de 20 minutes, au minimum 4 fois. Et en fait la souris devenait familière avec la souris qui était dans la boîte. Et donc on va regarder comment fonctionnent les neurones directement à l'intérieur du cerveau de la souris, grâce à ce qu'on appelle de la photométrie, et on va être capable de caractériser le fonctionnement de ces neurones en fonction des interactions et en fonction d'un comportement. Donc par exemple, on va voir que les souris wild type, donc qui ne sont pas mutées, qui n'ont pas la mutation, au fur et à mesure qu'on la réexpose à la même souris, eh ben, elle y va moins. Elle la connaît, donc elle interagit moins. Alors que par contre, avec les souris Magel, on n'observe pas ce comportement. Au niveau des souris Magel, d'une manière générale, elles vont moins interagir avec les souris, qu'elles soient familières ou qu'elles soient étrangères en fait. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'en fonction de la familiarité, on n'avait pas au niveau cérébral l'expression des mêmes hormones. Et plus une souris devenait familière, et plus chez les souris qui étaient non mutées, et plus en fait on avait les neurones à ocytocine qui étaient recrutés. Alors que chez une souris étrangère, c'était les neurones à vasopressine qui étaient recrutés.
On voit que les barres là qui représentent du coup, c'est le pourcentage d'ocytocine, c'est ça? Elles oui. sont beaucoup plus élevées sur les souris qui n'ont pas la mutation et donc qui ne sont pas malades par rapport aux autres.
Et là, vous le voyez, et en plus, dans les souris qui vont être non mutées, on voit bien ici que ce pourcentage, il augmente au fur et à mesure en fait, que les souris sont réexposées, donc elles sont familières. Mmh. Et là, l'ocytocine, par rapport à la première fois où elles ont vu la souris, elle est doublée, voire triplée, vous voyez. Alors que cette augmentation d'ocytocine, on ne va pas la retrouver chez les souris qui vont être mutées Magel 2. Il y a tout un chemin neuronal qui va être différent en fonction du contexte social. Et parce que ce contexte social va être différent, la manière de discriminer les comportements sociaux, en fait, va être différent. Et c'est là toute la difficulté, en fait, finalement, pour ces personnes-là qui vont être atteintes d'autisme, c'est comment être capable d'identifier qu'un contexte social va être sain, sûr, ou un contexte social va être aversif. Ajuster son comportement en fonction des rencontres que l'on fait, c'est quelque chose qui est compliqué, qui peut être compliqué quand on n'a pas de maladie. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des expériences sociales qui vont être difficiles et du coup être plus réticent à rencontrer quelqu'un d'étranger. Mais en plus, si vous venez ajouter là-dessus une pathologie comme l'autisme, où en fait la discrimination de ces comportements sociaux va être encore plus compliquée, c'est là tout l'intérêt de notre étude. C'est de montrer en fait quel est le réseau en fait de neurones qui va agir sur tel ou tel comportement et essayer en fait de proposer des thérapies pour pouvoir aider en fait à cette discrimination.
Vous montrez dans l'étude qu'il faut remédier à toute la chaîne qui permet la familiarité et donc la compréhension du contexte social dans lequel on se trouve. Mais pour le transférer en termes thérapeutiques, ça va être quelque chose donc de beaucoup plus compliqué. Ça suffit pas de donner les deux hormones, vasopressine et ocytocine, combinées au lieu de donner qu'une seule. Il y a, j'imagine, à la fois une partie de dosage, peut-être de moment aussi où on le donne. Est-ce que vous pourriez résumer un tout petit peu les enjeux thérapeutiques qu'il y a autour de ce sujet ?
Oui, alors vous avez compris tout le challenge, en fait. C'est que, déjà, il faut étudier à quelle dose, en fait, on va pouvoir donner ces hormones. Avec quelle séquence aussi thérapeutique on va les donner ? Est-ce que une administration unique va être suffisante ou est-ce qu'il va falloir faire un traitement chronique ? En fait, il y a plein de questions sur lesquelles, pour le moment, j'ai pas encore de réponse. Mais en tout cas, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes. Et puis, c'est à mon sens les prochaines pistes que l'on va explorer au laboratoire.
Merci Loïc Dutoit pour ce reportage. Alexandre Charlet, une réaction à l'écoute justement des mots de votre confrère.
De mon confrère, oui, c'est avec Freddy Janto, on a des projets en commun aussi. Alors, honte à moi, j'ai pas lu cette étude, j'espère qu'il va m'excuser et ne pas m'envoyer des messages d'insultes à la fin de l'émission. Donc, dans l'étude qui a été décrite, les scientifiques ont en fait mesuré l'activité des neurones ocytocinergiques dans un cadre d'interaction sociale en regardant l'évolution de l'activité des neurones selon la familiarité ou la réexposition. Ce que l'autrice décrit très bien, c'est qu'en fait, les souris vont avoir une préférence pour la nouveauté. Donc, elles vont d'abord se familiariser avec une souris, puis si on leur présente une autre souris avec qui elles ne sont pas familières, elles vont se diriger vers elle. Dans le cas des souris MAGEL2, donc qui a un syndrome de type autistique, entre guillemets, les souris là ne vont pas avoir cette reconnaissance sociale et donc vont aller de manière équivalente entre chacune des deux congénères. C'est ça qui est observé. Sur la fin du reportage, il y a une ouverture qui est faite sur les pistes thérapeutiques. Et là, on a effectivement encore beaucoup, beaucoup de travail. Ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit déjà depuis le début de l'émission, c'est-à-dire qu'on connaît maintenant de mieux en mieux le fonctionnement du système ostosynergique, on connaît un peu le fonctionnement du système vasopressinergique, on sait que ce sont des choses qu'on va devoir encore étudier à l'avenir, et par contre, je pense, à titre personnel, que l'utilisation de ces hormones en tant que telles, donc prendre de l'ocytocine injectée, prendre de la vasopressine injectée, ça ne va pas pouvoir donner grand-chose, puisque ce sont des hormones, des peptides, qui passent très très mal la barrière hématoencéphalique, voire pas du tout, selon les critères, selon les observations. Donc, demander à une injection d'avoir un effet thérapeutique, ça va être compliqué. Donc, c'est là qu'interviennent nos amis chimistes pour la synthèse d'autres agonistes qui vont pouvoir, eux, passer à barrière hématoencéphalique.
C'est ça, c'est que l'ocytocine pénètre très difficilement le cerveau. C'est ça le principal frein à son utilisation thérapeutique. Parole à Marcel Hubert.
Pas seulement. Donc, juste sur le travail, donc c'était extrêmement intéressant. Je pense que je vais la contacter en sortant du studio pour lui proposer notre molécule. Donc, j'aurais juste un commentaire. Par rapport à ce type d'analyse, là, j'ai pas malheureusement non plus lu l'article. Mais il y a quelque chose qui est extrêmement important sur vasopressine, ocytocine, etc., c'est le genre. C'est-à-dire qu'on se rend compte souvent que chez mâles et femelles, on a des réactions radicalement différentes. Donc il y a une foule d'études chez lesquelles, par exemple, l'agressivité est sous contrôle de la vasopressine, par exemple, chez les mâles et pas du tout chez les femelles. Voilà, il y a plein d'études de ce type-là. Donc il faut toujours être très très précis et très prudent, savoir si telle étude a été menée sur des mâles ou sur des femelles. Chez les femelles, c'est particulièrement difficile, ça dépend aussi du cycle, parce qu'au cours du cycle, les sécrétions d'oxytocine varient. Donc ces études sont toujours assez complexes. Mais en gros, son travail est extrêmement intéressant. Il va dans le sens de ce qui est déjà connu, c'est-à-dire que l'oxytocine aide un individu à s'attacher à son groupe social. Parfois même jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire des surdosages d'oxytocine vont provoquer de l'agressivité contre le groupe ennemi si le groupe est attaqué. Donc tout ça est assez bien documenté et son travail est tout à fait intéressant sur ce modèle de souris qui présente un syndrome de type autistique. Votre question, c'était l'oxytocine. Oui, on peut pas utiliser l'oxytocine pour différentes raisons. D'une part, elle est trop grosse pour passer du système digestif au sang. Si on la met en intraveineuse, elle est dans le sang, mais par contre, elle va être trop grosse pour passer la membrane des capillaires qui irriguent le cerveau. Donc elle va rester dans le sang, elle va pas passer dans le cerveau. Et troisième point, même si vous la mettez directement dans le cerveau, eh bien, en quelques minutes, elle va être coupée en morceaux par des enzymes, des systèmes qui sont là pour ça. Donc, elle n'aura pas une durée d'action suffisante. Et dernier point qui est souvent oublié, c'est que comme tout ça est publié, eh bien, on ne pourra pas prendre de brevet sur une molécule. On ne peut breveter que des choses qui ne sont pas connues du public. Donc, ces effets de l'oxytocine sont connus, on ne pourra donc pas breveter l'oxytocine. Donc, aucune industrie pharmaceutique ne va investir 1 milliard d'euros, parce que c'est ce que ça coûte, sur 10 ans, pour prouver que la molécule est efficace chez l'homme. D'où le challenge pour les chimistes, c'est de trouver une molécule brevetable, stable, non toxique, qui mime l'oxytocine ou qui mime les fonctions que l'on veut mimer chez l'oxytocine.
Challenge que vous avez relevé haut la main, hein, puisque vous avez justement réussi à créer une molécule entièrement synthétique, brevetée, qui est un agoniste de l'oxytocine. Comment ? Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, avec Marcel Hibert et Alexandre Charlet, nous parlons de l'ocytocine, hormone porte-bonheur, du plaisir, de l'amour et de bien plus encore. Vous avez réussi à créer, Marcel Hibert, un agoniste non peptidique. Vous êtes parvenu à mimer l'ocytocine avec une petite molécule de synthèse. Ça, c'était donc un défi. Vous avez passé à peu près, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 15 années de recherche pour découvrir ce premier agoniste plein non peptidique de l'ocytocine.
Alors c'est un défi classique, hein, c'est le travail des pharmacochimistes. Donc les pharmacochimistes, c'est des chimistes qui essayent de comprendre, de faire des outils pour comprendre le vivant, ça c'est la partie fondamentale, et qui essayent aussi de faire des molécules pour en faire des médicaments. Donc c'est un défi classique, c'est essayer de faire des petites molécules qui vont mimer des hormones, des substances actives. Généralement, ça marche assez vite. En l'occurrence, c'est pas 15 ans, c'est 30 ans qu'il nous a fallu. Donc, quand vous dites haut la main, non, c'est 30 ans d'échec. Enfin, pas 30 ans, c'est 25 ans d'échec. Et 5 ans où on a réussi à avoir cette première molécule qui fonctionne. Et ce n'est pas que moi, c'est toute une équipe, bien sûr, c'est tout un groupe. Il y a énormément de gens autour de moi qui ont travaillé sur ce projet très patiemment pendant 25-30 ans pour arriver à un brevet qui a été pris il y a un an aujourd'hui, une publication qui devrait sortir bientôt, j'espère. Donc 30 ans de travail pour arriver à trouver cette molécule qui mime l'ocytocine.
Oui, ça fait plus de 20 ans en effet que vous travaillez sur cette hormone. Mais quels sont, on peut peut-être rappeler pour nos auditeurs et nos auditrices, hein, quels sont les trois stratégies possibles pour mettre en avant un nouveau médicament?
Alors, pour découvrir des médicaments, il y a effectivement trois stratégies aujourd'hui. Là, si on a la chance de connaître la structure chimique de l'hormone ou du neurotransmetteur et la structure chimique de sa cible, de la protéine dans laquelle elle va aller s'emboîter, donc ça vient de technologies expérimentales comme la cristallographie par exemple, là on a une image en trois dimensions sous les yeux de la clé dans la serrure, si vous voulez utiliser l'image classique. Et là le travail du chimiste, c'est de regarder le trou de serrure et de concevoir une nouvelle molécule, une nouvelle clé qui ira se loger dedans pour mimer l'oxytocine qui est la clé naturelle. Ça, c'est la première approche. On a essayé cette approche, on a trouvé plein de molécules qui rentraient dans le trou de serrure, ce qui était déjà une réussite. Par contre, aucune n'ouvrait la porte. C'est-à-dire qu'on avait ce qu'on appelle des antagonistes, donc des molécules qui rentrent dans le récepteur, mais qui le bloquent. Deuxième approche qu'on a mis en place dans les années 2000 en milieu académique, c'est le criblage à haut débit. C'est une approche qui existe dans l'industrie depuis la fin des années 90. On a créé la Chimiothèque nationale en France, on a mis les premières plateformes de criblage en France. Et là, l'idée, c'est de... si on a notre serrure en face à nous, ben on va, grâce à des robots, tester des dizaines et des dizaines de milliers de clés potentielles, de molécules, en espérant trouver une qui va rentrer dans le trou de serrure. On a essayé cette approche, on a testé plus de 50 000 molécules, on a trouvé des molécules qui rentraient dans le trou de serrure, aucune n'ouvrait la porte. De nouveau, que des antagonistes. Troisième approche, c'est de partir de l'hormone elle-même, ou de molécules qui se fixent pas très bien dans le récepteur, et là, faire un travail... pas réellement en aveugle, mais presque, c'est-à-dire modifier point par point ces molécules en espérant gagner de l'activité, etc. Et c'est cette approche-là qui finalement nous a permis, après 25 ans d'essais d'erreurs, à trouver une molécule qui mime l'oxytocine, qui est plus puissante que l'oxytocine elle-même, qui se fixe mieux à son récepteur et qui enfin, pour une fois, active le récepteur.
Ça a été rendu possible, comme approche, cette troisième stratégie qui a fonctionné, ça a été rendu possible par la découverte justement de la structure en double serrure des récepteurs de l'ocytocine.
Non, alors ce qui nous a beaucoup agacé, d'habitude lorsqu'on travaille sur un récepteur, c'est qu'on progresse, on améliore progressivement les molécules, voilà, ça avance. Dans ce cas-là, c'était 25 ans d'échec total. Donc on a essayé de comprendre pourquoi. Et en fait, grâce à des collaborations, notamment avec des collègues de Montpellier, Bernard Mouillac, Thierry Duroux, il a été démontré que cette serrure, en fait, elle existait accolée à une autre serrure. C'est comme si on avait deux récepteurs l'un contre l'autre. Ou, si vous voulez, un coffre, comme la porte d'un coffre...
Coffre de banque sécurisé. Voilà.
Où il n'y a pas une clé, une serrure, mais il y a deux clés, deux serrures. Et il se trouve que l'oxytocine rentre dans le premier trou de serrure, modifie la forme du second, rentre dans le second, et seulement là, la porte s'ouvre. Donc la nature a inventé un système très simple, extrêmement sécurisé, pour qu'il n'y ait pas n'importe quoi qui vienne activer ce récepteur. Et donc la difficulté pour nous, chimistes, c'était de trouver une molécule qui fasse le deux en un, qui arrive à la fois à rentrer dans le premier trou, le modifier, etc. etc. Et ça a expliqué notre échec, nos difficultés pendant des années et des années. Mais c'est pas parce qu'on a compris ça qu'on a pu concevoir la clé. La bonne clé, finalement, on l'a trouvée en tâtonnant, avec beaucoup d'acharnement et pas mal de chance.
Vous êtes parvenu à obtenir cette molécule agoniste nommée LIT-001 puis LIT-002. La start-up Ocentis a racheté cette molécule et l'ensemble des applications. Je sais que vous n'avez plus la main dessus, mais quelle serait l'application thérapeutique développée en priorité ?
Alors c'est vrai qu'à l'université, on se limite à la phase exploratoire. Donc une fois qu'on a trouvé une molécule, qu'on a démontré son efficacité dans les modèles animaux et qu'on a démontré que la molécule était propre, pas toxique, etc., le brevet, après, est transféré à des entreprises, parce que là, c'est des fonds beaucoup plus importants, et ce n'est plus de la recherche, c'est du développement. Et là, effectivement, le bébé passe dans les mains d'une société. Donc notre mission s'arrête là. Et cette société, sans trahir ses secrets, donc ils ont carte blanche pour développer la molécule sur toutes les applications que l'on a évoquées auparavant. Et donc là, actuellement, je pense qu'ils sont en train d'hésiter entre d'abord développer la molécule pour aider au sevrage de l'alcool, donc tout ce qui est addiction. Et puis l'autisme, bien sûr, les troubles du spectre autistique, et regarde aussi du côté douleurs neuropathiques. Mais je pense, si je suis à peu près leur logique, je pense qu'ils vont développer les molécules dans cet ordre-là. D'abord l'addiction, puis l'autisme. Simplement parce qu'il est beaucoup plus facile de prouver l'activité d'une molécule sur une addiction que de prouver l'activité d'une molécule sur des troubles de l'interaction sociale.
Et pourquoi pas l'alcool, pourquoi pas la douleur, justement ?
Après, c'est des questions de modèle, est-ce que l'on croit dans le modèle, est-ce que les questions de marché, des questions de compétences, de portfolio, de l'entreprise. Donc ça, c'est leur choix, c'est leur stratégie industrielle. Et malheureusement, les chercheurs que nous sommes, nous n'avons plus aucun impact sur ces stratégies.
En tout cas, ça signifie qu'on en a encore pour environ quoi, 8 ans avant que ça puisse être mis sur le marché du médicament ?
Alors en moyenne, oui, à partir du moment où une molécule sort du stade recherche exploratoire et passe en développement industriel, donc il y a une phase de développement, puis après de test chez l'homme, en moyenne ça va prendre au moins 8 ans. Et coûter autour de 800 millions de dollars, ou 800 millions d'euros. Donc vous voyez, c'est un investissement énorme en temps et en argent. Et on ne saura si cet investissement va payer uniquement lorsqu'on arrivera à ce que l'on appelle en phase 2 chez l'homme, c'est-à-dire lorsqu'on aura prouvé que la molécule est réellement efficace chez des patients. Jusque-là, ça reste hypothétique. Hein. Ça ne repose que sur des modèles animaux, des hypothèses. Et la vérité sera in vivo.
In vivo, faudra aussi tester, Alexandre Charlet, le fait que l'ocytocine, c'est un neuropeptide cérébral parmi beaucoup d'autres. Il agit donc pas forcément tout seul. À un moment, il va aussi falloir se pencher sur cet aspect-là.
L'ocytocine n'est qu'un peptide parmi d'autres. On commence déjà à se pencher sur des effets de synergie entre plusieurs molécules. Donc, dans l'étude, dans le reportage, il y avait une mention d'ailleurs de la synergie entre vasopressine et ocytocine dans le cadre des interactions sociales. Il y a d'autres neuropeptides, d'autres neurotransmetteurs, pas forcément des peptides, d'autres mêmes molécules encore, des terpènes par exemple, qui peuvent agir toutes à des niveaux différents. Et ce qu'on met de plus en plus en évidence sont des actions synergiques, c'est-à-dire ce sont des actions qui ne sont pas simplement une addition d'effets, mais vraiment une amplification d'effets d'une molécule à l'autre. Et l'IT-01, par exemple, on l'a eu entre les mains, on a pu le tester dans des modèles de douleur chez l'animal, et là on a eu des résultats qui étaient vraiment exceptionnels, puisqu'on arrivait à avoir une analgésie pendant plus de 6 heures allongée, donc c'est vraiment très long, sans avoir d'effets secondaires, en tout cas mesurés, et puis cette molécule n'était pas du tout dégradée. Donc là on avait un très très bel effet.
Eh bien, merci en tout cas pour ce très bel entretien. Merci à vous deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Je rappelle que votre ouvrage, Marcel Hibert, Ocytocine, mon amour, est disponible dans toute bonne librairie. Tout de suite, on retrouve Alexandre Morales avec la chronique Avec Science.
Comment modéliser l'évolution du permafrost ? permafrost, ou plutôt le pergélisol en bon français, c'est un terme géologique qui désigne les sols dont la température ne dépasse pas les 0 degrés sur l'année. Assez logiquement, ce sont des zones situées en haute altitude, comme les sommets de l'Himalaya, mais aussi en haute latitude, comme l'Antarctique et surtout l'Arctique. Ces sols profonds qui restent gelés toute l'année recouvrent un quart des terres émergées de l'hémisphère nord et jouent un rôle écologique essentiel. Par exemple, les forêts boréales qu'on appelle la taïga et qui recouvrent la plus grande partie de l'hémisphère nord en sont dépendantes. Elles poussent dans des zones où il pleut très peu et le pergélisol, cette couche de terre gelée imperméable, permet de conserver l'eau en surface où elle est captée par les arbres. On soupçonne aussi très fortement ce pergélisol d'être un réservoir de gaz à effet de serre bloqué dans la glace sous forme de matière organique. Malheureusement, on observe depuis des décennies un dégel du pergélisol avec des conséquences fortes à des échelles locales et globales puisque ce dégel accentue le réchauffement climatique. Laurent Orgogozo est maître de conférence à l'université Paul Sabatier à Toulouse.
La question de savoir comment va évoluer le permafrost dans le futur face au changement climatique, à la continuation du changement climatique, aux évolutions futures du climat, c'est très important. C'est notamment pour ça que le GIEC a publié un rapport spécial sur l'océan et la cryosphère en 2019, dans lequel il y a notamment une figure très importante qui montre entre 1950 et 2100 l'évolution de la surface couverte par le permafrost au niveau global. Et sur cette figure, ce qui est remarquable, c'est que, donc, bon, d'une manière générale, la surface de permafrost diminue, mais suivant les scénarios de changement climatique et les modèles climatiques utilisés, on a des résultats qui vont de quelques pourcents de diminution de surface de permafrost d'ici à 2100 jusqu'à une disparition totale du permafrost en 2100 depuis déjà un quart de siècle. Donc on a un futur du permafrost à l'échelle du siècle, à l'échelle du réchauffement climatique en cours, qui est très incertain. Et on a besoin de diminuer ces incertitudes, d'être plus précis dans les projections climatiques afin de mieux s'y préparer et de mieux s'y adapter.
Alors, pour mieux comprendre l'évolution du pergélisol, Laurent Orgogozo et ses collègues du projet Hyperborea ont mis en place des modèles informatiques et leurs résultats ont été publiés dans la revue de Cryosphère. Alors, pour construire ces modèles, il faut bien sûr beaucoup de données, mais le permafrost étant situé sous la surface, on ne peut pas les obtenir par satellite et il faut donc les récupérer sur le terrain avec des capteurs de température notamment. Ensuite, ces données doivent être étalées sur la durée, ce qui explique qu'on ne puisse pas faire ces modélisations partout. Ici, les scientifiques se sont concentrés sur une région forestière précise de la Sibérie centrale, en pleine taïga. Et pour comprendre comment cet endroit va être transformé, il faut des scénarios d'évolution du climat. Les chercheurs se sont donc appuyés sur les quatre principaux scénarios d'évolution des températures proposés par le GIEC. Ils vont de plus 1 degré à plus 4 degrés en 2100 par rapport aux températures actuelles. On peut ainsi simuler l'évolution du transfert de l'eau et des températures dans le sol selon ces scénarios pour savoir s'il va y avoir ou non du dégel. Alors, c'est une physique très complexe hein, qui nécessite l'usage de supercalculateurs. Et c'est la première fois qu'une simulation aussi précise a été réalisée.
Sur le bassin versant de la Kulim Dakhan, on a simulé avec Permafoam un dégel significatif du permafrost dans tous les scénarios de réchauffement climatique, avec notamment, par exemple, une augmentation de l'épaisseur de couche active, donc l'épaisseur de couche dégelée en été, où se passe la vie et la plupart des processus biogéochimiques, de plus de 60% dans le cas du scénario de changement climatique le plus intense, business as usual. Donc plus de 60% d'augmentation de la couche active, ça correspond à un décalage d'environ 350 km vers le sud en conditions climatiques actuelles. C'est un impact très fort du réchauffement climatique, avec des conséquences potentiellement très importantes sur l'écosystème.
Cela veut dire qu'avec un réchauffement global de plus 4 degrés, en 2100, le climat de cette région de la Sibérie pourrait devenir aussi chaud que le climat actuel des régions situées 350 km plus au sud. Ce papier nous permet de réduire l'incertitude à propos des conséquences du changement climatique sur le pergélisol. Il relativise un peu les prévisions les plus alarmistes qui penchent pour une disparition totale du pergélisol. Ces données ont été obtenues sur une région très précise et il faut à présent répliquer le processus sur d'autres sites et surtout trouver le moyen d'intégrer ces résultats aux modèles globaux d'évolution du climat.
Merci Alexandre pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Ève Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Noémie Eliazor, Bruno Sansini, Loïc Dutoit, Ali Rivière-Thompson. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Élise Leu. N'hésitez pas à nous podcaster sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer.
à ce jour.